Madame Schontz, d'abord connue sous le nom de la petite Aurélie pour la distinguer d'une de ses rivales beaucoup moins spirituelle qu'elle, appartenait à la classe la plus élevée de ces femmes dont l'utilité sociale ne peut être révoquée en doute, ni par le préfet de la Seine, ni par ceux qui s'intéressent à la prospérité de la ville de Paris. Certes, le rat, taxé de démolir des fortunes souvent hypothétiques, rivalise bien plutôt avec le castor. Sans les Aspasies du quartier Notre-Dame de Lorette, il ne se bâtirait pas tant de maisons à Paris. Pionniers des plâtres neufs, elles vont remorquer par la spéculation le long des collines de Montmartre, plantant les piquets de leurs tentes, soit dit sans jeu de mots, dans des solitudes de moellons sculptés qui meublent les rues européennes d'Amsterdam, de Milan, de Stockholm, de Londres, de Moscou, steppes architecturales où le vent fait mugir d'innombrables écriteaux qui en accusent le vide par ces mots « appartements à louer ». La situation de ces dames se détermine par celle qu'elles prennent dans ces quartiers apocryphes. Si leur maison se rapproche de la ligne tracée par la rue de Provence, la femme a des rentes, son budget est prospère. Mais cette femme s'élève-t-elle vers la ligne des boulevards extérieurs? Remonte-t-elle vers la ville affreuse des Batignolles? Elle est sans ressources. Or, quand Monsieur de Rochegude rencontra Madame Schontz, elle occupait le troisième étage de la seule maison qui exista rue de Berlin. Elle campait donc sur la lisière du malheur et sur celle de Paris. Cette femme-fille ne se nommait, vous devez le pressentir, ni Schontz ni Aurélie. Elle cachait le nom de son père, un vieux soldat de l'Empire, l'éternel colonel qui fleurit à l'aurore de ses existences féminines, soit comme père, soit comme séducteur. Madame Schontz avait joui de l'éducation gratuite de Saint-Denis, où l'on élève admirablement les jeunes personnes, mais qui n'offre aux jeunes personnes ni mari, ni débouché au sortir de cette école, admirable création de l'empereur à laquelle il ne manque qu'une seule chose, l'empereur. « Je serai là pour pourvoir les filles de mes légionnaires », répondit-il à l'observation d'un de ses ministres qui prévoyait l'avenir. Napoléon avait dit aussi « Je serai là » pour les membres de l'Institut, à qui l'on devrait ne donner aucun appointement plutôt que de leur envoyer 83 francs par mois, traitement inférieur à celui de certains garçons de bureau. Aurélie était bien réellement la fille de l'intrépide colonel Schiltz, un chef de ces audacieux partisans alsaciens qui faillirent sauver l'empereur dans la campagne de France et qui mourut à Metz, pillé, volé, ruiné. En 1814, Napoléon mit à Saint-Denis la petite Joséphine Schiltz, alors âgée de 9 ans, orpheline de père et de mère, sans asile, sans ressources. Cette pauvre enfant ne fut pas chassée de l'établissement au second retour des Bourbons. Elle y fut sous-maîtresse jusqu'en 1827, mais alors la patience lui manqua, sa beauté la séduisit. À sa majorité, Joséphine Schiltz, la filleule de l'impératrice, aborda la vie aventureuse des courtisanes, conviée à ce douteux avenir par l'exemple fatal de quelques-unes de ses camarades, comme elle sans ressources, et qui s'applaudissaient de leur résolution. Elle substitua un « un » à l'île du nom paternel et se plaça sous le patronage de Sainte Aurélie. Vive, spirituelle, instruite, elle fit plus de fautes que celles de ses stupides compagnes dont les écarts eurent toujours l'intérêt pour base. Après avoir connu des écrivains pauvres mais malhonnêtes, spirituels mais endettés, après avoir essayé de quelques gens riches aussi calculateurs que niais, après avoir sacrifié le solide à l'amour vrai, s'être permis toutes les écoles où s'acquiert l'expérience, en un jour d'extrême misère où chez Valentino, cette première étape de Musard, elle dansait vêtue d'une robe, d'un chapeau, d'une mantille d'emprunt, elle attira l'attention d'Arthur venu là pour voir le fameux galop. Elle fanatisa par son esprit ce gentilhomme qui ne savait plus à quelle passion se vouer, et alors, 2 ans après avoir été quitté par Béatrix, dont l'esprit l'humiliait assez souvent, le marquis ne fut blâmé par personne de se marier au 13e arrondissement de Paris avec une Béatrix d'occasion. Esquissons ici les 4 saisons de ce bonheur. Il est nécessaire de montrer que la théorie du mariage au 13e arrondissement en enveloppe également tous les administrés. Soyez marquis, et quadragénaire, ou sexagénaire et marchand retiré, 6 fois millionnaire ou rentier, voire un début dans la vie, grand seigneur ou bourgeois, la stratégie de la passion, sauf les différences inhérentes aux zones sociales, ne varie pas. Le cœur et la caisse sont toujours en rapport exact et défini. Enfin, vous estimerez les difficultés que la duchesse devait rencontrer dans l'exécution de son plan charitable. On ne sait pas quelle est en France la puissance des mots sur les gens ordinaires, ni quel mal font les gens d'esprit qui les inventent. Ainsi, nul teneur de livres ne pourrait supputer le chiffre des sommes qui sont restées improductives, verrouillées au fond des cœurs généreux et des caisses par cette ignoble phrase « tirer une carotte ». Ce mot est devenu si populaire qu'il faut bien lui permettre de salir cette page. D'ailleurs, en pénétrant dans le 13e arrondissement, il faut bien en accepter le patois pittoresque. Monsieur de Rochegude, comme tous les petits esprits, avait toujours peur d'être carotté. Le substantif s'était fait verbe. Dès le début de sa passion pour Madame Schontz, Arthur fut sur ses gardes et fut alors très rat, pour employer un autre mot, aux ateliers de bonheur et aux ateliers de peinture. Le mot « rat », quand il s'applique à une jeune fille, signifie le convive, mais appliqué à l'homme, il signifie un avare amphitryon. Madame Schontz avait trop d'esprit et connaissait trop bien les hommes pour ne pas concevoir les plus grandes espérances d'après un pareil commencement. Monsieur de Rochegude alloua 500 francs par mois à Madame Schontz, lui meubla mesquinement un appartement de 1200 francs à un second étage rue Coquenard, et se mit à étudier le caractère d'Aurélie, qui lui fournit aussitôt un caractère à étudier en s'apercevant de cet espionnage. Aussi Rochegude fut-il heureux de rencontrer une fille douée d'un si beau caractère, mais il n'y vit rien d'étonnant. La mère était une Barnheim de Bade, une femme comme il faut. Aurélie avait d'ailleurs été si bien élevée. Parlant l'anglais, l'allemand et l'italien, elle possédait à fond les littératures étrangères. Elle pouvait lutter sans désavantage contre les pianistes de second ordre. Et, notez ce point, elle se comportait avec ses talents comme les personnes bien nées. Elle n'en disait rien. Elle prenait la brosse chez un peintre, la maniait par raillerie et faisait une tête assez crânement pour produire un étonnement général. Par désœuvrement, durant le temps où elle dépérissait sous maîtresse, elle avait poussé des pointes dans le domaine des sciences. Mais sa vie de femme entretenue avait couvert ses bonnes semences d'un manteau de sel, et naturellement elle fit honneur à son Arthur de la floraison de ses germes précieux, recultivés pour lui. Aurélie commença donc par être d'un désintéressement égal à la volupté, qui permit à cette faible corvette d'attacher sûrement ses grappins sur ce vaisseau de haut bord. Néanmoins, vers la fin de la première année, elle faisait des tapages ignobles dans l'antichambre avec ses socs, en s'arrangeant pour rentrer au moment où le marquis l'attendait, et cachait, de manière à le bien montrer, un bas de sa robe outrageusement crotté. Enfin, elle sut si parfaitement persuader à son gros papa que toute son ambition, après tant de hauts et bas, était de conquérir honnêtement une petite existence bourgeoise, que 10 mois après leur rencontre, la seconde phase se déclara. Madame Schontz obtint alors un bel appartement, rue Neuve-Saint-Georges. Arthur, ne pouvant plus dissimuler sa fortune à Madame Schontz, lui donna des meubles splendides, une argenterie complète, 1200 francs par mois, une petite voiture basse à un cheval, mais à location, et il accorda le tigre assez gracieusement. La Schontz ne sut aucun gré de cette munificence, elle découvrit les motifs de la conduite de son Arthur et y reconnut des calculs de rat. Excédée de la vie de restaurant où la chère est la plupart du temps exécrable, où le moindre dîner de gourmet coûte 60 francs pour un et 200 francs quand on invite 3 amis, Rochegude offrit à Madame Schontz 40 francs par jour pour son dîner et celui d'un ami, tout compris. Aurélie accepta. Après avoir accepté toutes ses lettres de change de morale, tirées à 1 an sur les habitudes de Monsieur de Rochegude, elle fut alors écoutée avec faveur quand elle réclama 500 francs de plus par mois pour sa toilette, afin de ne pas couvrir de honte son gros papa, dont les amis appartenaient tous au Jockey Club. « Ce serait du joli, dit-elle, si Rastignac, Maxime de Trailles, d'Esgrignon, La Roche-Hugon, Ronquerolles, Laginski, Le Noncourt et autres vous trouvaient avec une Madame Évrard. D'ailleurs, ayez confiance en moi, mon gros père, vous y gagnerez. » En effet, Aurélie s'arrangea pour déployer de nouvelles vertus dans cette nouvelle phase. Elle se dessina dans un rôle de ménagère dont elle tira le plus grand parti. Elle nouait, disait-elle, les 2 bouts du mois sans dette avec 2500 francs, ce qui ne s'était jamais vu dans le faubourg Saint-Germain du 13e arrondissement, et elle servait des dîners supérieurs à ceux de Rothschild. On y buvait des vins exquis à 10 et 12 francs la bouteille. Aussi, Rochegude émerveillé, très heureux de pouvoir inviter souvent ses amis chez sa maîtresse, en y trouvant de l'économie, disait-il en la serrant par la taille, « voilà un trésor ». Bientôt il loua pour elle un tiers de loge aux Italiens, puis il finit par la mener aux premières représentations. Il commençait à consulter son Aurélie en reconnaissant l'excellence de ses conseils, elle lui laissait prendre les mots spirituels qu'elle disait à tout propos, et qui, n'étant pas connus, relevèrent sa réputation d'homme amusant. Enfin, Il acquit la certitude d'être aimé véritablement et pour lui-même. Aurélie refusa de faire le bonheur d'un prince russe à raison de 5 000 francs par mois. « Vous êtes heureux, mon cher marquis !» s'écria le vieux prince Galathion en finissant au club une partie de whist. « Hier, quand vous nous avez laissés seuls, Madame Chantz et moi, j'ai voulu vous la souffler. Mais elle m'a dit « Mon prince, vous n'êtes pas plus beau, mais vous êtes plus âgé que Rochegude. Vous me battriez, et il est comme un père pour moi. Trouvez-moi là le quart d'une bonne raison pour changer. Je n'ai pas pour Arthur la passion folle que j'ai eue pour des petits drôles à bas de vernis et de qui je payais les dettes. » Mais je l'aime comme une femme aime son mari quand elle est honnête femme, et elle m'a mis à la porte. » Ce discours, qui ne sentait pas la charge, eut pour effet de prodigieusement aider à l'état d'abandon et de dégradation qui déshonorait l'hôtel de Rochegude. Bientôt, Arthur transporta sa vie et ses plaisirs chez Madame Schontz, et il s'en trouva bien, car au bout de 3 ans, il eut 400 000 francs à placer. La troisième phase commença. Madame Schontz devint la plus tendre des mères pour le fils d'Arthur. Elle allait le chercher à son collège et l'y ramenait elle-même. Elle accabla de cadeaux, de friandises, d'argent, cet enfant qu'il appelait sa petite maman et de qui elle fut adorée. Elle entra dans le maniement de la fortune de son Arthur, elle lui fit acheter des rentes en baisse avant le fameux traité de Londres qui renversa le ministère du 1er mars. Arthur gagna 200 000 francs et Aurélie ne demanda pas une obole. En gentilhomme qu'il était, Rochegude plaça ses 600 000 francs en actions de la banque et il en mit la moitié au nom de Mademoiselle Joséphine Schiltz. Un petit hôtel, loué rue de la Bruyère, fut remis à Grindot le célèbre architecte, avec ordre d'en faire une voluptueuse bonbonnière. Rochegude ne compta plus dès lors avec Madame Schontz, qui recevait les revenus et payait les mémoires. Devenue sa femme de confiance, elle justifia ce titre en rendant son gros papa plus heureux que jamais. Elle en avait reconnu les caprices, elle les satisfaisait comme Madame de Pompadour caressait les fantaisies de Louis XV. Elle fut enfin maîtresse en titre, maîtresse absolue. Aussi se permit-elle alors de protéger des petits jeunes gens ravissants, des artistes, des gens de lettres nouveau-nés à la gloire qui niaient les anciens et les modernes et tâchaient de se faire une grande réputation en faisant peu de choses. La conduite de Madame Schontz, chef-d'œuvre de tactique, doit vous en révéler toute la supériorité. D'abord, 10 à 12 jeunes gens amusaient Arthur, lui fournissaient des traits d'esprit, des jugements fins sur toute chose, et ne mettaient pas en question la fidélité de la maîtresse de la maison. Puis il la tenait pour une femme éminemment spirituelle. Aussi ses annonces vivantes, ses articles ambulants, firent-ils passer Madame Schontz pour la femme la plus agréable que l'on connût sur la lisière qui sépare le 13e arrondissement des 12 autres. Ses rivales, Suzanne Gaillard, qui depuis 1838 avait sur elle l'avantage d'être devenue femme mariée en légitime mariage, pléonasme nécessaire pour expliquer un mariage solide, Fanny Beaupré, Mariette, Antonia, répandaient des calomnies plus que drôlatiques sur la beauté de ces jeunes gens et sur la complaisance avec laquelle M. de Rochegude les accueillait. Madame Schontz, qui distançait de 3 blagues, disait-elle, tout l'esprit de ces dames, un jour à souper donné par Nathan chez Florine après un bal de l'opéra, leur dit, après leur avoir expliqué sa fortune et son succès, un « faites-en autant » dont on a gardé la mémoire. Madame Schontz fit vendre les chevaux de course pendant cette période, en se livrant à des considérations qu'elle devait sans doute à l'esprit critique de Claude Vignon, un de ses habitués. « Je concevrais, dit-elle un soir, après avoir longtemps cravaché les chevaux de ses plaisanteries, que les princes et les gens riches prissent à cœur l'hypiatrique, mais pour faire le bien du pays et non pour les satisfactions puériles d'un amour propre de joueur. Si vous aviez des haras dans vos terres, si vous y éleviez des 1 000 à 1 200 chevaux, si chacun faisait courir les meilleurs élèves de son haras, si tous les haras de France et de Navarre concouraient à chaque solennité, ce serait grand et beau. Mais vous achetez des sujets comme des directeurs de spectacle font la traite des artistes, vous ravalez une institution jusqu'à n'être plus qu'un jeu, vous avez la bourse des jambes comme vous avez la bourse des rentes. C'est indigne. Dépenseriez-vous par hasard 60 000 francs pour lire dans les journaux « Lélia, à Monsieur de Rochegude, abattu d'une longueur fleur de genêt à Monsieur le duc de Rhétoré. Vaudrait mieux alors donner cet argent à des poètes. Ils vous feraient aller en vers et en prose à l'immortalité comme feu Montyon. » À force d'être talonné, le marquis reconnut le creux du turf. Il réalisa cette économie de 60 000 francs, et l'année suivante, Madame Schontz lui dit « Je ne te coûte plus rien, Arthur. » Beaucoup de gens riches envièrent alors Madame Schontz au marquis et tâchèrent de la lui enlever. Mais, comme le prince russe, ils y perdirent leur vieillesse. « Écoute, mon cher, avait-elle dit 15 jours auparavant à Finot, devenu fort riche. « Je suis sûre que Rochegude me pardonnerait une petite passion si je devenais folle de quelqu'un. Et l'on ne quitte jamais un marquis de cette bonne enfance-là pour un parvenu comme toi. Tu ne me maintiendrais pas dans la position où m'a mise Arthur. Il a fait de moi une demi-femme comme il faut. Et toi, tu ne pourrais jamais y parvenir, même en m'épousant. » Ceci fut le dernier clou rivé qui compléta le ferment de cet heureux forçat. Le propos parvint aux oreilles absentes pour lesquelles il fut tenu. La quatrième phase était donc commencée, celle de l'accoutumance, la dernière victoire de ses plans de campagne, et qui fait dire d'un homme par ces sortes de femmes « je le tiens ». Rochegude, qui venait d'acheter le petit hôtel au nom de mademoiselle Joséphine Schiltz, une bagatelle de 80 000 francs, en était arrivé lors des projets formés par la duchesse à tirer vanité de sa maîtresse qu'il nommait Ninon II, en en célébrant ainsi la probité rigoureuse, les excellentes manières, l'instruction et l'esprit. Il avait résumé ses défauts et ses qualités, ses goûts, ses plaisirs, par Madame Schontz, et il se trouvait à ce passage de la vie où, soit lassitude, soit indifférence, soit philosophie, un homme ne change plus et s'en tient ou à sa femme ou à sa maîtresse. On comprendra toute la valeur acquise en 5 ans par Madame Schontz en apprenant qu'il fallait être proposé longtemps à l'avance pour être présenté chez elle. Elle avait refusé de recevoir des gens riches ennuyeux, des gens tarés. Elle ne se départait de ses rigueurs qu'en faveur des grands noms de l'aristocratie. Ceux-là, disait-elle, ont le droit d'être bêtes parce qu'ils le sont comme il faut. Elle possédait ostensiblement les 300 000 francs que Rochegude lui avait donnés, et qu'un bon enfant d'agent de change, Gobenheim, le seul qui fût admis chez elle, lui faisait valoir. Mais elle manœuvrait à elle seule une petite fortune secrète de 200 000 francs, composée de ses bénéfices économisés depuis 3 ans et de ceux produits par le mouvement perpétuel des 300 000 francs, car elle n'accusait jamais que les 300 000 francs connus. « Plus vous gagnez, moins vous vous enrichissez, lui dit un jour Gobenheim. « L'eau est si chère, répondit-elle. « Celle des diamants ? Reprit Gobenheim. « Non, celle du fleuve de la vie. » Le trésor inconnu se grossissait de bijoux, de diamants qu'Aurélie portait pendant 1 mois et qu'elle vendait après, de sommes données pour payer des fantaisies passées. Quand on la disait riche, Madame Schontz répondait qu'au taux de rente, 300 000 francs donnait 12 000 francs et qu'elle les avait dépensés dans les temps les plus rigoureux de sa vie, alors qu'elle aimait Lousteau. Cette conduite annonçait un plan. Et Madame Schontz avait en effet un plan, croyez-le bien. Jalouse depuis 2 ans de Madame Dubruel, elle était mordue au cœur par l'ambition d'être mariée à la mairie et à l'église. Toutes les positions sociales ont leurs fruits défendus, une petite chose grandie par le désir au point d'être aussi pesante que le monde. Cette ambition se doublait nécessairement de l'ambition d'un second Arthur qu'aucun espionnage ne pouvait découvrir. Bixiou voulait voir le préféré dans le peintre Léon de Lora. Le peintre le voyait dans Bixiou, qui dépassait la quarantaine et qui devait penser à se faire un sort. Les soupçons se portaient aussi sur Victor de Vernisset, un jeune poète de l'école de Canalis, dont la passion pour Madame Schontz allait jusqu'au délire. Et le poète accusait Stidman, un jeune sculpteur, d'être son rival heureux. Cet artiste, un très joli garçon, travaillait pour les orfèvres, pour les marchands de bronze, pour les bijoutiers. Il espérait recommencer Benvenuto Cellini. Claude Vignon, le jeune comte de la Palférine, Gobenheim, Vermenton, philosophe cynique, autres habitués de ce salon amusant, furent tour à tour mis en suspicion et reconnus innocents. Personne n'était à la hauteur de Madame Schontz, pas même Rochegude, qui lui croyait un faible pour le jeune et spirituel la Palférine. Elle était vertueuse par calcul et ne pensait qu'à faire un bon mariage. On ne voyait chez Madame Schontz qu'un seul homme à réputation macquérienne, Couture, qui plus d'une fois avait fait hurler les boursiers. Mais Couture était un des premiers amis de Madame Schontz, elle seule lui restait fidèle. La fausse alerte de 1840 rafla les derniers capitaux de ce spéculateur qui crut à l'habileté du 1er mars. Aurélie, le voyant en mauvaise veine, fit jouer, comme on l'a vu, Rochegude en sens contraire. Ce fut elle qui nomma le dernier malheur de cet inventeur des primes et des commandites, une découture. Heureux de trouver son couvert mis chez Aurélie, Couture, à qui Finot, l'homme habile ou, si l'on veut, heureux entre tous les parvenus, donnait de temps en temps quelques billets de 1 000 francs, était seul à ses calculateurs pour offrir son nom à Madame Schontz, qu'il étudiait, pour savoir si le hardi spéculateur aurait la puissance de se frayer un chemin en politique et assez de reconnaissance pour ne pas abandonner sa femme. Couture, homme d'environ 43 ans, très usé, ne rachetait pas la mauvaise sonorité de son nom par la naissance. Il parlait peu des auteurs de ses jours. Madame Schontz gémissait de la rareté des gens capables lorsque Couture lui présenta lui-même un provincial qui se trouva garni des deux anses par lesquelles les femmes prennent ces sortes de cruches quand elles veulent les garder. Esquisser ce personnage, ce sera peindre une certaine portion de la jeunesse actuelle. Ici, la digression sera de l'histoire. En 1838, Fabien du Ronceret, fils d'un président de chambre à la cour royale de Caen mort depuis un an, quitta la ville d'Alençon en donnant sa démission du juge, siège où son père l'avait obligé de perdre son temps, disait-il, et vint à Paris dans l'intention de faire son chemin en faisant du tapage, idée normande difficile à réaliser, car il pouvait à peine compter 8 000 francs de rente, sa mère vivant encore et occupant comme usufruitière un très important immeuble au milieu d'Alençon. Ce garçon avait déjà, dans plusieurs voyages à Paris, essayé sa corde comme un saltimbanque, et reconnu le grand vice du replâtrage social de 1830. Aussi comptait-il l'exploiter à son profit, en suivant l'exemple des finauds de la bourgeoisie. Ceci demande un rapide coup d'œil sur un des effets du nouvel ordre de choses. L'égalité moderne, développée de nos jours outre mesure, a nécessairement développé dans la vie privée sur une ligne parallèle à la vie politique, l'orgueil, l'amour-propre, la vanité, les trois grandes divisions du moi social. Les sots veulent passer pour gens d'esprit. Les gens d'esprit veulent être des gens de talent. Les gens de talent veulent être traités de gens de génie. Quant aux gens de génie, ils sont plus raisonnables, ils consentent à n'être que des demi-dieux. Cette pente de l'esprit public actuel, qui rend à la chambre le manufacturier jaloux de l'homme d'État et l'administrateur jaloux du poète, pousse les sots à dénigrer les gens d'esprit à dénigrer les gens de talent à dénigrer ceux d'entre eux qui les dépassent de quelques pouces, et les demi-dieux à menacer les institutions, le trône, enfin tout ce qui ne les adore pas sans condition. Dès qu'une nation a très impolitiquement abattu les supériorités sociales reconnues, elle ouvre des écluses par où se précipite un torrent d'ambitions secondaires dont la moindre veut encore primer. Elle avait dans son aristocratie un mal, au dire des démocrates, mais un mal défini, circonscrit. Elle l'échange contre 10 aristocraties contendantes et armées, la pire des situations. En proclamant l'égalité de tous, on a promulgué la déclaration des droits de l'envie. Nous jouissons aujourd'hui des saturnales de la Révolution transportées dans le domaine paisible en apparence, de l'esprit, de l'industrie et de la politique. Aussi semble-t-il aujourd'hui que les réputations dues au travail, au service rendu, au talent, soit des privilèges accordés aux dépens de la masse. On étendra bientôt la loi agraire jusque dans le champ de la gloire. Donc, jamais dans aucun temps, on a demandé le triage de son nom sur le volet public à des motifs plus puérils. On se distingue à tout prix par le ridicule, par une affectation d'amour pour la cause polonaise, pour le système pénitentiaire, pour l'avenir des forces à libérer, pour les petits mauvais sujets au-dessus ou au-dessous de 12 ans, pour toutes les misères sociales. Ces diverses manies créent des dignités postiches, des présidents, des vice-présidents et des secrétaires de société dont le nombre dépasse à Paris celui des questions sociales qu'on cherche à résoudre. On a démoli la grande société pour en faire un millier de petites, à l'image de la défunte. Ces organisations parasites ne révèlent-elles pas la décomposition? N'est-ce pas le fourmillement des vers dans le cadavre? Toutes ces sociétés sont filles de la même mère, la vanité. Ce n'est pas ainsi que procède la charité catholique ou la vraie bienfaisance. Elles étudient les maux sur les plaies en les guérissant et ne pérorent pas en assemblée sur les principes morbifiques pour le plaisir de pérorer. Fabien du Ronceret, sans être un homme supérieur, avait deviné par l'exercice de ce sens avide particulier à la Normandie tout le parti qu'il pouvait tirer de ce vice public. Chaque époque a son caractère que les gens habiles exploitent. Fabien ne pensait qu'à faire parler de lui. « Mon cher, il faut faire parler de soi pour être quelque chose, » disait-il en parlant au roi d'Alençon, à Du Bousquier, un ami de son père. « Dans 6 mois, je serai plus connu que vous. » Fabien traduisait ainsi l'esprit de son temps. Il ne le dominait pas, il y obéissait. Il avait débuté dans la Bohême, un district de la topographie morale de Paris, voire un prince de la Bohême, scène de la vie parisienne, où il fut connu sous le nom de l'héritier à cause de quelques prodigalités préméditées. Du Ronceret avait profité des folies de Couture pour la jolie Madame Cadine, une des actrices nouvelles à qui l'on accordait le plus de talent sur une des scènes secondaires, et à qui, durant son opulence éphémère, il avait arrangé rue Blanche, un délicieux rez-de-chaussée à jardin. Ce fut ainsi que Du Ronceret et Couture firent connaissance. Le Normand, qui voulait du luxe tout prêt et tout fait, acheta le mobilier de couture et les embellissements qu'il était obligé de laisser dans l'appartement, un kiosque où l'on fumait, une galerie en bois rustiqué garnie de nattes indiennes et ornée de poteries pour gagner le kiosque par les temps de pluie. Quand on complimentait l'héritier sur son appartement, il l'appelait sa tanière. Le provincial se gardait bien de dire que Grindot l'architecte y avait déployé tout son savoir-faire, comme Stidmann dans les sculptures et Léon Delora dans la peinture, car il avait pour défaut capital cet amour-propre qui va jusqu'au mensonge dans le désir de se grandir. L'héritier compléta ses magnificences par une serre qu'il établit le long d'un mur à l'exposition du Midi, non qu'il aimât les fleurs, mais il voulut attaquer l'opinion publique par l'horticulture. En ce moment, il atteignait presque à son but. Devenu vice-président d'une société jardinière quelconque, présidée par le duc de Wissembourg, frère du prince de Chiavari, le fils cadet du feu maréchal Vernon, il avait orné du ruban de la Légion d'honneur son habit de vice-président, après une exposition de produits dont le discours d'ouverture, acheté 500 francs à Lousteau, fut hardiment prononcé comme de son cru. Il fut remarqué pour une fleur que lui avait donnée le vieux Blondet d'Alençon, père d'Émile Blondet, et qu'il présenta comme obtenue dans sa serre. Ce succès n'était rien. L'héritier, qui voulait être accepté comme un homme d'esprit, avait formé le plan de se lier avec les gens célèbres pour en refléter la gloire, plan d'une mise à exécution difficile, en ne lui donnant pour base qu'un budget de 8 000 francs. Aussi, Fabien du Ronceret s'était-il adressé tour à tour et sans succès à Bixiou, à Stidmann, à Léon Delora, pour être présenté chez Madame Schontz et faire partie de cette ménagerie de lions en tout genre. Il paya si souvent à dîner à Couture que Couture prouva catégoriquement à Madame Schontz qu'elle devait acquérir un pareil original, ne fût-ce que pour en faire un de ces élégants valets sans gage que les maîtresses de maison emploient aux commissions pour lesquelles on ne trouve pas de domestiques.